Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui s'apprête à commencer et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, nouvelle mobilisation pour alerter sur le manque de personnel au CHU de Rennes, c'était hier. Reportage avec des parents d'élèves à l'école du Colombier pour parler mixité sociale, il y aura de la musique dont une nouveauté. Interview avec Lucie Inland pour son ouvrage « Surveiller et nourrir » qui est sorti au printemps. Et puis une recommandation, c'est de jeter un coup d'œil à un jardin pirate. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour, la mobilisation mardi 20 juin de l'Union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale réunie devant les urgences du CHU de Rennes en fin de matinée. L'été arrive et cette intersyndicale craint, ce n'est pas nouveau, un manque de personnel, particulièrement dans le paramédical. Lionel Lepagnol de la CGT a expliqué au quotidien local du Télégramme que tous les services fonctionnent avec 1, 2, voire 4 aides-soignants en moins. Le personnel médical, il manque aussi, notamment des anesthésistes réanimateurs. Il y aurait 9 postes manquants et les conséquences de cette pénurie de personnel, elles sont multiples. Il y a d'abord un recours fort à l'intérim, 45 fois par mois au CHU de Rennes. Également la fermeture de lits, par exemple dans le service des maladies digestives où 6 lits ont été fermés, une partie des congés ont aussi été supprimés et les horaires de travail rallongés. L'Union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale en profite donc pour réclamer l'augmentation du nombre de places dans les centres de formation et les facultés de médecine au sein d'un grand plan, un plan formation, mais aussi la hausse des salaires, une revalorisation des heures de nuit, dimanche et jours fériés ou encore des mesures pour prioriser l'affectation des médecins à l'hôpital. Après cette info du jour, c'est l'heure d'un reportage. Et ce reportage, c'est la troisième rencontre que je vous propose sur le thème de la mixité sociale dans les écoles. On avait plutôt parlé pour l'instant de la situation dans les collèges avec tout d'abord le département d'Ille-et-Vilaine et puis le syndicat du SNES FSU. Aujourd'hui, on parle de l'école primaire avec l'exemple de l'école du Colombier où les parents alertent depuis longtemps sur la vétusté du bâtiment, ce qui aurait pour effet de faire fuir certains parents de catégories socio-professionnelles favorisées vers le privé. L'école du Colombier fait partie des 23 écoles dont l'indice de position sociale est inférieur à la moyenne nationale, mais sans pour autant être classé dans le réseau d'éducation prioritaire. Pour rappel, à Rennes, les 5 écoles avec l'IPS le plus bas sont publiques et 4 des 5 écoles avec l'IPS le plus haut sont privées, signe que la mixité sociale est réellement en panne. Allez, reportage.
On a affiché une banderole devant l'école. Sur cette banderole, il est écrit « Attention, 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 école Colombier ». Égale école orpheline, bâtiment vétuste, difficultés sociales, accompagnement des familles insuffisant, végétation inexistante, école délaissée, égale enfance en danger. On alerte depuis des années, que font nos élus?
Et il y en a une autre de l'autre côté qui est
l'artiste sur l'amiance.
Bonjour, je suis la maman de Marius, je suis avocate.
Bonjour, je suis la maman de Léopold et de Suzanne.
Je suis chargée de mission sur des sujets en lien avec la transition écologique.
Bonjour, je suis la maman d'Irma. Je suis travailleuse sociale en recherche d'emploi.
Nous sommes délégués de parents d'élèves.
Auxquels s'ajoutent aussi quelques parents qui sont impliqués dans l'association de parents d'élèves et qui ne sont pas forcément délégués, mais qui nous appuient aussi pour l'ensemble des démarches. Je pense qu'il y a un peu mis le feu à la poudre, c'est le fait que l'éducation nationale a été contrainte de rendre public l'IPS. Et c'est un peu objectiver des choses qu'on ressentait mais qu'on ne pouvait pas justement objectiver. Et de voir qu'effectivement notre école, contrairement à l'ensemble des autres écoles du centre-ville, avait un IPS relativement bas qui est comparable à d'autres écoles situées en réseau d'éducation prioritaire.
Donc IPS, qui est l'indice de position sociale qui a rendu public depuis très récemment, depuis 2022. En gros, plus il est élevé, plus les élèves sont socialement favorisés dans leur moyenne. Là où c'est particulier, c'est que cette école, elle n'est pas classée en réseau d'éducation prioritaire. On peut juste redire pourquoi ?
pour être classé en réseau d'éducation prioritaire, il faut remplir plusieurs conditions. Donc avoir un indice de position sociale assez bas et être aussi rattaché à un collège qui se situe en réseau d'éducation prioritaire. Or, l'école Colombier est rattachée au collège des Ormeaux, qui est un collège qui regroupe d'autres groupes scolaires, on va dire, avec un IPS beaucoup plus favorisé. Donc on ne peut pas bénéficier de soutien et de moyens humains tels que peuvent l'avoir les autres écoles REP.
Est-ce qu'on peut décrire un peu les conditions matérielles, l'état des bâtiments, etc. ?
Oui, les bâtiments sont très vétustes. L'école a été construite dans les années 70 et depuis, elle n'a jamais été rénovée. Donc il y a des classes qui n'ont qu'un simple vitrage, alors que nous sommes aux abords du chemin de fer. Donc l'isolation phonique et thermique est quasiment nulle. Donc lorsque le train passe, les enseignantes sont obligées d'arrêter la classe parce que les élèves ne les entendent plus. Et pour ce qui est de l'isolation thermique, on a eu des emails les lundis matins nous indiquant en hiver que la température était de 12 degrés dans les classes. À l'inverse, en ce moment, il fait 30 degrés dehors, il fait 30 degrés dans les classes aussi. Donc c'est très difficile pour les enseignantes de faire classe dans ces conditions.
Par-dessus ça, il y a eu récemment là, une alerte au niveau de l'amiante présente dans les écoles. Vous avez aussi remarqué que vous faisiez partie de ces établissements-là.
Oui, il y a de l'amiante également dans l'établissement scolaire Colombier, en particulier dans l'école primaire. Je crois qu'en école maternelle, on en a vu. Le problème a été résolu par la ville de Rennes avec du scotch pour combler les trous qui laissaient apparaître l'amiante. C'est encore un gros problème dans les classes de primaire parce qu'il y a de l'amiante qui est en train d'être découvert régulièrement. La ville de Rennes n'intervient pas ou alors en disant de mettre simplement du scotch, je crois, hein, sur...
Alors ça, c'était les premières préconisations qui, en fait, n'étaient pas les bonnes préconisations. Donc, ils font du remplacement dalle par dalle. Mais des élèves élémentaires qui sont assis sur une chaise, en fait, ils ont tendance à bouger leur chaise. Donc, ça frotte sur les dalles et le risque, c'est qu'il y ait éventuellement une propagation dans l'air de l'amiante. On sait qu'en fait, le risque lié à l'amiante, c'est l'inhalation. Donc en fait, on aimerait savoir si en fait il y a une exposition ou pas. On pourrait être rassuré si on avait des tests. Donc là, effectivement, ça fait quelques mois qu'on demande des tests parce que peut-être qu'en fait l'amiante qui est présente dans les dalles, même avec frottement, ne présente aucun risque et du coup, c'est tant mieux. Mais peut-être que ça présente un risque et pour l'équipe éducative et pour les enfants et auquel cas on aimerait le savoir.
Continuer à dérouler le fil, ces conditions-là matérielles d'accueil des enfants à l'école du Colombier, ça vous amène à émettre l'hypothèse que ça pourrait faire fuir certains parents peut-être de classes sociales plus favorisées qui ont la possibilité d'aller dans le privé et donc de renforcer cette, on peut parler de ségrégation sociale un peu.
Oui, absolument. Et il y a une réelle ségrégation sociale dans cette école parce qu'il y a une fuite de la part des populations, des CSP+, on va dire, qui mettent leurs enfants dans des écoles privées. Et ça se ressent très bien à l'école.
Pour planter juste un peu le décor, on n'est pas très loin du centre commercial du Columbia. Autour de nous, il y a à la fois des maisons, je dirais plutôt chic, et aussi pas mal d'immeubles. On parle d'un quartier qui, en tout cas, dans ses résidents, est plutôt mixte socialement.
Le quartier est mixte socialement, mais si on regarde bien la carte scolaire, on a quand même une grosse proportion de logements sociaux, parce que la carte scolaire rattachée à Colombier, c'est à la fois le quartier Colombier, avec pas mal de logements sociaux, le quartier Arsenal-Redon, où il y a des logements privatifs, mais aussi des logements sociaux, et une partie du quartier Sud-Gare, avec la ZAC Madeleine d'un côté, des logements sociaux, et le foyer René, rue de Nantes, de l'autre côté. Donc effectivement, on a quand même à la base une forte proportion de logements sociaux pour notre carte scolaire, avec un peu de logements privé. Et dans ce peu de logements privés, effectivement, il y a une fuite, un évitement ou d'autres raisons qui font que les enfants ne sont pas scolarisés ici.
Autour de cette école publique, il y a combien d'écoles privées ?
Alors, je pense que Notre-Dame des Miracles n'est pas très loin et Notre-Dame du Vieux-Cours est la plus proche. Peut-être chacune est à environ à 500 mètres d'ici.
Ouais. Il y a Saint-Joseph aussi. Mais...
Ah oui, effectivement. Ouais. La conséquence n'est pas tellement sur les conditions d'éducation de nos enfants. Finalement, le fait qu'il n'y ait pas de mixité ou il y ait peu de mixité sociale, nous, nos enfants, ont une éducation topissime dans cette école quand même. La crainte, elle est plutôt justement de faire fuir d'autres personnes qui auraient simplement peur, en fait. Alors qu'en réalité, l'équipe éducative fait en sorte que l'éducation des enfants soit très bien.
Mais sans moyens supplémentaires, effectivement, quand il y a 28 enfants par classe en maternelle, avec beaucoup d'allophones, donc beaucoup de nationalités différentes, donc en maternelle, c'est des enfants qui ne possèdent pas forcément encore le bagage à l'oral et à l'écrit du français, donc ça demande davantage d'accompagnement. Et comme on est, entre guillemets, une école classique, on n'a pas ces moyens-là. Donc la crainte, c'est plutôt aussi de voir cette super équipe éducative partir. Et puis, je ne sais pas si c'est d'un point de vue militant, mais effectivement, l'entre-soi, c'est jamais bon. Donc un peu plus de mixité, c'est pas forcément pour, entre guillemets, relever le niveau, mais juste pour être le reflet de la société.
Je rajouterais que la force de cet accompagnement de la part des équipes périscolaires et enseignantes permet à chaque enfant de trouver sa place et de prendre sa place. Et surtout, ça n'a pas d'impact sur la réussite scolaire de nos enfants.
Est-ce que pour certaines d'entre vous, ça a pu être une réflexion de se dire peut-être le privé ?
A priori, non. Et jusqu'ici, pas du tout. Maintenant, il y a une nouvelle donne qui s'ajoute aux problèmes déjà existants. C'est la construction à 3 mètres des classes de maternelle d'un immeuble qui va faire 10 étages. Donc qui va encore plus venir encercler le groupe scolaire, qui va lui enlever en partie aussi le soleil qu'il peut avoir dans la cour. Et surtout, la construction va durer 2 ans. Donc ça va être 2 ans dont 12 mois de grosses œuvres, donc 12 mois de travaux extrêmement bruyants qui vont avoir lieu à quelques mètres seulement des classes dont on disait tout à l'heure qu'elles n'avaient pas de double vitrage et donc qu'elles n'étaient pas isolées phoniquement. À partir du moment où on a eu connaissance du projet, on a commencé à vouloir avoir des informations. On n'a pas eu de retour à nos lettres de demande d'informations. Dans un second temps, lorsque le permis de construire a été déposé, là, on s'est permis d'envoyer des lettres recommandées. Et à partir de là, on nous a proposé un rendez-vous. Le rendez-vous, il a eu lieu 6 mois après. On nous a exposé le projet et on nous a dit « on va revenir vers vous avec des solutions ». On n'a pas eu de nouvelles de la ville pendant très longtemps jusqu'à ce qu'ils reviennent vers nous avec différents scénarios envisagés pour essayer de protéger les enfants du bruit du chantier. Et finalement, les scénarios qui ont été proposés sont très décevants pour les parents d'élèves et pour l'équipe éducative aussi, puisqu'ils consistent simplement à bouger les enfants de la maternelle dans l'enceinte de l'école primaire, c'est-à-dire réduire toutes les pièces.
Enfin, il n'y a pas de réflexion sur la délocalisation, il n'y a pas de réflexion sur la possibilité de mettre des préfabriqués, ou alors le coût s'avère trop élevé de mettre des préfabriqués en location pour pouvoir accueillir les enfants. Donc c'est vrai que les solutions, elles sont relativement limitées et en fait, ils ont élaboré ces scénarios en l'absence de l'équipe éducative qui est quand même la plus à même de connaître les contraintes d'usage. Alors on a une rénovation qui va arriver, mais après. Alors les calendriers se sont resserrés, la réunion du 13 juin, en fait, on nous a annoncé que les travaux pour l'école allaient démarrer à l'été 2025. Donc on a quand même un chevauchement entre les deux chantiers.
Et ce projet de rénovation, il vise à venir justement combler là les failles sur cette école.
Je crois que ça fait plus de 10 ans que les parents délégués successifs alertent dans les conseils d'école pour parler d'isolation des bâtiments. Je pense qu'on est un peu dans le top de celles qui n'ont jamais eu même de travaux, un peu de rafraîchissement intermédiaire. Donc effectivement, ces travaux seront les bienvenus et ça va être rénovation, réhabilitation de l'école pour être plus performant énergétiquement et puis une meilleure isolation. Et puis je pense aussi revoir les usages et les fonctionnalités de l'école qui datent de 1977.
Je précise que j'ai sollicité l'élu de la ville de Rennes pour échanger sur ce sujet de la mixité sociale dans les écoles rennaises, entre autres gros dossiers du moment quand on parle d'éducation, mais je suis toujours dans l'attente d'un retour en raison de difficultés d'agenda du côté de cet élu.
Dans le creux de la... Mirage d'éclaircie. Quand lumine l'étoile, jaunie par ce drap, oh. m'enivrant de roses, de teintes qui, sur le visage, illuminent les pupilles. Et l'esquisse du sourire qui ravit le naïf, le cloisonne de pétales qui s'enfuit en soupir. La bouche, elle, enflée de désir, s'était obscurcie par le vague souvenir d'une ivresse avachie. Alors, lorsque l'illustre fracas succombe au désordre du silence, il s'invente encore.
Combat au désordre, il s'invente encore.
douceur le dessin, durci au soleil au double matin. Enlisez là, allongez là. Les paupières transpercent les images bercées. Les paupières transpercent les images bercées afin que le noir sur la toile opère un baiser.
Mossaï Mossaï et le morceau Esquisse, c'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur, et à retrouver sur l'album Face ou Faces, qui est en tout cas sorti le 26 mai chez Figure Libre Records. C'est le premier disque de ce groupe originaire de Tours, un groupe carrément rock. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur notre très joli site canalb.fr, c'est l'heure de l'interview du jour. Lucie Inland, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes journaliste indépendante rennaise et vous venez de publier, bon alors c'était au mois de mars, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, Surveiller et nourrir aux éditions Nourriture Fu. C'est une enquête sur ce que la prison a dans le ventre. Pour continuer à vous présenter un petit peu, vous êtes journaliste donc freelance pour des médias comme Slate, j'ai aussi repéré Vice ou encore le Telegram que les auditeurs connaissent bien à l'échelle locale. Vous dites avoir un intérêt marqué pour des sujets comme la grossophobie, la mort, les animaux et la CAF. J'imagine pas tous en même temps, mais pris séparément. Et vous êtes membre d'un collectif féministe de journalistes pigistes qui s'appelle Tu Piges. Il faut dire que vous êtes journaliste depuis finalement assez peu de temps. C'est une nouvelle aventure dans votre vie.
Oui, je suis une jeune journaliste de 35 ans et demi.
Reconvertie depuis peu.
Oui, j'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai fait de la photo pendant plusieurs années, pas très fructueux au niveau financier, mais fructueux d'un point de vue personnel, mais ça a changé. J'ai écrit un petit peu plutôt tout ce qui est associatif et culturel, et je m'étais dit un jour quand je serai grande, j'écrirai dans la vraie presse des vrais articles, et ça c'est un peu fait tout seul. Bon, il y a eu 2020 en même temps où ça a mis plein de...
Années particulières.
Oui, mais au moins, ça m'a permis de finir de me préparer. Et 2021, j'ai envoyé des pitchs et ça a commencé chez Slate.
Le point de départ à la rédaction de l'ouvrage là, dont on parle aujourd'hui, c'est justement un article écrit pour le magazine en ligne Slate. C'était en 2021 où vous vous posiez déjà la question très concrète et pragmatique de comment est-ce qu'on mange dans les prisons, pas uniquement en France.
Oui, c'était un de mes premiers d'ailleurs. Mon tout premier, c'était sur l'IMC, que j'aime beaucoup et malheureusement qu'on pourrait tout réécrire la même 2 ans et demi après, mais... C'est un autre sujet, mais oui, celui-là, je l'avais écrit peu de temps après les événements du Capitole. Et c'est vrai que tout le monde avait parlé, c'est l'introduction de mon livre du coup.
La prise d'assaut du Capitole.
Avec notamment comme manifestant très reconnaissable QAnon Shaman, qui a été arrêté 3 jours après et qui a demandé à manger selon son régime chamanique. Partira pas dans les définitions du chamanisme. Et du coup, il s'était réellement posé la question. Il a été aidé par son avocat et de toute façon, il y a la liberté d'exercer sa religion, quelle qu'elle soit aux États-Unis, qui fait qu'il a pu accéder à sa demande. Mais il a fait une grève de la faim et surtout, il y a eu un engouement médiatique, mais sur le mode vraiment insolite, un peu drôle. Et je te dis, oui, certes, mais comment ça se passe pour les autres, quoi?
Comment est-ce qu'on passe de cet article à l'idée d'un livre, projet quand même plus ambitieux? Est-ce que c'est la maison d'édition Nourriture Fu qui est venue vers vous? C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'alimentation, mais aussi d'autres sujets comme le vin nature. C'est cette maison qui est venue vers vous?
Bah alors moi, je les connaissais déjà. Donc c'est Antonin Yomi Amonategui et Anne Zunino qui organisent des salons du vin, notamment à Paris, et c'est comme ça qu'on s'était connus un peu dans ma vie d'avant, mais on reste toujours en contact. Et alors, je sais plus lequel des deux, entre Antonin et moi, a lancé le truc, mais on s'est dit, ah oui, tiens, faisons ça. Alors je savais que ce serait long, compliqué et pas vraiment rémunérateur, hein, c'est le principe d'écrire un livre. Mais je m'étais dit, bon, une première fois à tout, allons-y.
On dit un mot sur le titre de ce livre. Sur le moment, moi, j'ai pas percuté. Il y a un moment, j'ai compris. Surveiller et nourrir, en référence à un livre qui est incontournable sur le sujet de la prison et dont vous parlez dans le livre Ouvrage d'un philosophe.
Surveiller et punir de Michel Foucault. Alors c'est mes éditeurs qui m'ont dit qu'ils avaient pensé à ce titre-là. Moi j'y ai pensé, hein, forcément, mais j'avais pas du tout osé en me disant, oh, c'est quand même...
L'héritage est lourd, quoi.
Ouais, moi clairement j'ai pas cette ambition, mais moi j'avais donné un titre de travail qui était beaucoup plus stupide, mais qui était pas du tout adapté pour ça. Et je m'étais dit qu'au final, c'est ce qui me semblait être le meilleur titre et qui est assez compréhensible aussi, qu'on ait la référence ou pas...
Un ouvrage qui a été publié en 1975. Ensuite, vous vous attelez donc à l'écriture de ce livre à mi-chemin entre l'enquête et l'essai. Il y a une très jolie illustration bleue en couverture.
Oui, elle est très jolie. Elle a été réalisée par Juliette Lambert, qui travaille habituellement avec Nourriture Fût. Donc,
on y voit des corps bleus qui s'entremêlent et qui sont dans un espace très contraint, on le comprend.
Oui. Ils sont pas vraiment genrés, ils ont pas vraiment de visage, et il y en a un qui mange une grappe de raisin, et il y en a d'autres derrière qui se battent. Il y a une silhouette avec une fourchette et une autre, c'est mon petit détail préféré, avec un quignon de baguette de pain dans l'oreille. Je trouve ça très bien.
Je l'avais pas remarqué. Pour ce qui est de l'écriture, vous avez à la fois regardé ce qui avait été écrit sur le sujet avec un peu un regard à travers l'histoire. Vous avez aussi réalisé des entretiens et puis regardé la télé, puisqu'il y a la pop culture qui vous intéresse à ce sujet.
Oui. Enfin, pour de vrai, c'est des choses que j'avais déjà regardées avant, et je me suis dit, c'est le moment de m'être fait la première saison de Prison Break, qui est, je pense, la série carcérale la plus connue. J'aime pas du tout. C'était très long, et en plus, il n'y avait rien de particulier à en dire. Par contre, ça m'a permis de parler de mon grand amour pour la série Oz, et de discuter avec Tom Fontana, d'ailleurs, pour la petite histoire. Je me dis quand même, il faut savoir se faire plaisir dans la vie.
Oz. C'est le surnom du pénitencier Oswald, le pire des pénitenciers, maximum sécurité. Oz est rétro. Oz est une humiliation. Vous voulez punir un type, vous le séparez de sa famille, vous le séparez de lui-même, vous le bouclez avec ses semblables.
Viens ici, toi! Allez, viens là! Je t'ai vu! Mets-toi à plat ventre! Fous-toi à plat ventre!
Non! Non! Non, je ne veux pas! Non!
Oz, c'est l'enfer pour purger sa peine.
Et la série Orange is the New Black, qui je pense est l'exemple le plus connu de la pop, que j'aime bien aussi d'ailleurs. Mais moi, c'est vraiment Oz, ma série préférée.
Vous avez été surprise de la matière que vous avez trouvée sur le sujet, qui va de la recherche à des aspects très pragmatiques de menus qu'on trouve aujourd'hui dans le milieu de la détention.
Mais moi, je pensais qu'il y en aurait plus. C'est souvent une question qui est abordée, mais au détour d'un autre sujet plus central, y compris en discutant avec l'OIP, qui est donc l'Observatoire international des prisons, qui disait qu'ils reçoivent rarement des plaintes qui portent vraiment que sur la nourriture. Les gens parlent d'autre chose et ils parlent de ça. Et les divers interlocuteurs et interlocutrices que j'ai eus m'ont tous dit « Ah, c'est vachement intéressant, parce que ça permettrait d'avoir un ouvrage de synthèse. » C'était genre « C'est trop de pression d'un coup. » Et ne serait-ce que pour prendre l'exemple pop culture de Orange is the New Black, je pensais vraiment qu'il y aurait plus d'articles de fond, ne serait-ce que dans la presse américaine. C'est une série américaine, donc c'est plus facile à trouver dessus. Et les Américains ont plus ce côté d'approche culturelle de la nourriture qui existe moins en France. Enfin, ça s'améliore, notamment avec Nourriture Fût ou des podcasts comme Bouffon chez Nouvelles Écoutes. Mais je m'étais dit, oh, quand même.
Et, parce qu'il faut le dire quand même, dans la série Orange is the New Black, qui est sûrement, je pense, une des séries les moins sensationnalistes quand on parle de prison, sur ce qui s'est fait en série américaine, la cuisine et le réfectoire font partie des lieux principaux de l'intrigue et de ce qui se joue dans cette série.
Ah, c'est beaucoup plus mise en scène que ce qui peut se passer pour de vrai. La moins sensationnaliste, au final, c'est c'est Oz. Mais après, pour en avoir discuté, par exemple, avec un ancien détenu, Danny, j'ai échangé avec lui. Il m'avait dit qu'il y a toujours une part de mise en scène, de toute façon, dans les séries. Parce qu'il m'a dit la vie de tous les jours, c'est pas très intéressant, d'un point de vue. Mais oui, c'est un élément central, parce que c'est un élément central de la vie de tout le monde en général. Et en détention aussi, sachant qu'en détention, on est coincé entre quatre murs, c'est un peu le principe, avec des activités un petit peu plus restreintes. Et vraiment, c'est un environnement qui est complètement contrôlé. Donc le rapport à l'alimentation et aux activités et la vie en général est tout de suite très très différent, avec des choses interdites. Cette image de poste un peu de pouvoir au niveau des cuisines, mais qui a aussi son intérêt dans la vraie vie, pas que dans les séries, même si ça donne des intrigues hyper passionnantes dans les séries.
Je m'appelle Piper Chapman.
Il est temps de vous dire au revoir.
Je t'aime tant, mon chéri.
Moi aussi,
j'ai transporté une valise pleine d'argent provenant de la drogue il y a 10 ans.
Elle t'avait informé tout ça?
Elle a omis de mentionner qu'elle couchait avec une lesbienne commandant un réseau international de trafic de drogue.
Tu ne dois pas t'inquiéter.
Surveiller et nourrir, c'est un livre en 6 chapitres. Vous l'avez dit, le point de départ, c'est votre regard happé par des images à la télévision, les images de Jacob Chansley, qui finalement amène cette idée qui est partagée par beaucoup d'entre nous. La détention, c'est une punition, également d'un point de vue alimentaire, même si ça ne devrait pas. Et finalement, c'est pas un sujet. Beaucoup pensent que c'est plutôt bien mérité.
Ah oui, oui, c'est cette idée qui est censée ne plus avoir cours quand même depuis plusieurs siècles, mais il suffit de faire quelque chose que je ne vous conseille pas vraiment de faire chez vous, mais de regarder les commentaires sur les réseaux sociaux, sur n'importe quelle publication qui parle de la vie en prison, avec des commentaires extrêmement haineux, à base de « ils l'ont bien mérité », il ne faut pas que les personnes détenues vivent mieux que les personnes qui vivent à l'extérieur. Et il y a quand même cette idée de châtiment, mais dans les conditions d'incarcération. Alors que la peine, c'est la période de temps à passer en prison, pas les conditions d'incarcération. Mais il y a toujours cette espèce de continuum qui fait que la maltraitance est expliquée. En plus, c'est un service d'État, donc ils vivent sur nos deniers. Donc il y a un peu le côté, on gaspille de l'argent pour des gens qui ne méritent pas, parce que s'ils ont fait de la prison, c'est qu'ils ont fait quelque chose de pas bien. Oui, mais bon... C'est pas excusable pour autant, et en plus, en France, sauf exception, on libère les gens. La plupart des gens font des séjours plutôt courts, donc c'est des gens qui font partie de la société, quoi qu'il arrive, et je vois pas vraiment ce qu'on attend en traitant très mal les gens, y compris par la nourriture, mais par le cadre de vie en général, et des gens qui vont sortir, qui vont devoir se réinsérer. Enfin, c'est un projet de société un petit peu bizarre, mais ça peut donner des discussions un peu irrationnelles, avec des gens qui sont pas sensibilisés... à la question.
Ces idées reçues là, vous essayez de les battre en brèche dans cet ouvrage. Très concrètement, on en apprend plus sur la place de l'assiette en prison. On peut y dire que globalement on n'y mange pas très bien, mais surtout qu'on a vite faim, que contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de réfectoire, et que si on veut mieux manger que les trois on va dire maigres repas qui sont fournis d'ailleurs par les mêmes entreprises qu'on retrouve dans certaines cantines, il faut soit payer ou alors attendre, patienter et attendre les colis de faim d'année, c'est bien résumé?
Oui, alors le colis de fin d'année, on peut pas miser l'année dessus, et en plus il y a plein de choses qui ne rentrent pas. Vous ne ferez pas rentrer d'orange en prison, contrairement à l'expression répandue dans notre langue. Mais oui, pour améliorer l'ordinaire, et pas que pour la nourriture d'ailleurs, il faut pouvoir cantiner, donc acheter à la cantine qui est l'épicerie centrale et pas l'endroit où on se restaure. Et c'est pas accessible à tout le monde. Alors j'ai plus les tarifs maintenant avec l'inflation, mais avant l'inflation, il fallait 250 euros par mois. Donc faut pouvoir avoir soit un poste en détention, mais c'est pas accessible à tout le monde, et surtout pas en maison d'arrêt, parce que la surpopulation rend tout ingérable. Généralement, c'est la conclusion à peu près tout ce qui ne fonctionne pas en prison, c'est la surpopulation. Ou alors il faut avoir son entourage qui finance. Et il faut pouvoir avoir conjoint, conjointe, parent ou autre qui peut vous aider à hauteur de 200, 150 euros minimum par mois, ce qui est quand même pas rien. Mais c'est comme... c'est les difficultés qu'on retrouve en prison, c'est les mêmes qu'à l'extérieur, sauf que c'est concentré et c'est vraiment une loupe. À l'extérieur aussi, quand on n'a pas d'argent, on mange pas bien et on n'a pas accès à suffisamment de soins et autres. Mais en prison, vous êtes complètement dépendant du lieu où vous êtes, donc vous n'avez aucune marge de manœuvre.
Et puis socialement, la prison réunit des personnes qui, pour beaucoup, sont dans des situations sociales difficiles. On parle de 19,3% de personnes indigentes qui sont sous les seuils, comment on peut dire, de ressources suffisantes pour vivre correctement. Là où ça devient compliqué, c'est, en plus de ça, si on a des restrictions alimentaires, que ce soit, je ne sais pas, intolérance, allergie, régime végétarien, ça vous en parlait dans le livre, ou régime halal, par exemple. Est-ce que je peux vous laisser peut-être nous lire un des menus que vous avez réussi à trouver, menus d'une société, d'une entreprise, qui sont donc distribués en milieu carcéral? Je trouve que c'est très concret.
Oui, alors juste pour préciser, tout ce qui est restrictions médicales, c'est pris en charge, c'est des prescriptions faites par les médecins, donc normalement, est-ce qu'il faut. Halal, vu que c'est quand même assez présent en France, c'est moins minoritaire que d'être végétarien, par exemple, mais ça dépend aussi des centres, tout simplement. Mais par exemple, les moments de Ramadan, c'est plus compliqué parce que ça implique de manger en différé et il faut avoir accès à une épicerie confessionnelle. L'offre est plus ou moins bonne, mais ça dépend aussi des centres. Et donc moi, j'ai fait l'expérience, j'aime bien les difficultés, j'ai fait l'expérience selon mon propre régime alimentaire qui est végétarien, donc on n'est pas beaucoup en France. Mais je voulais faire ça un petit peu honnêtement et ça me permettait d'introduire des jurisprudences qu'il y avait eu sur l'accès à la nourriture végétarienne en prison et notamment sur la question des régimes confessionnels, qui est un sujet épineux en France en général parce qu'on n'a pas forcément trop compris toutes les implications de la laïcité. J'ai réussi à me procurer un exemple de menu fourni par Elior pour la semaine du 21 au 27 février 2022. Je l'ai lu dans sa globalité et comme si je devais composer mon menu de la semaine, sachant que je suis végétarienne. En entrée, principalement des crudités et des soupes, à l'exception du maquereau à la tomate, du demi-pamplemousse et du jus de pomme, comme en entrée, pas comme boisson, oui. Une entrée proposée à chaque déjeuner et à un dîner sur deux. Place ensuite au plat de résistance, au choix parmi 5 ou 6 options. On y trouve des féculents pour les glucides, riz, pâtes, polenta, tortilla ou pommes de terre, des légumes, des protéines, viande, poisson, œufs. Et le dimanche, c'est steak frites. Au dessert, selon les jours, il y a une crème dessert, du fromage blanc, un fruit, une portion de fromage et un cake aux noix maison, je fais des guillemets qu'ils ne voient pas la radio, le dimanche. De quoi se composer, en théorie du moins, des repas assez variés et fournis tant qu'on n'est pas difficile, chacun chacune ses goûts. Il est toujours possible de manger sans porc et même végétarien, bien que ça ne garantisse pas toujours un repas complet. Le mardi midi, je ne peux choisir que les betteraves à échalotes, la polenta et l'ananas. Le vendredi midi, la purée de pommes de terre et le brie emballé. Le dimanche midi, les carottes râpées à l'orange, les frites et le dessert. Pour rappel, les végétariens et végétariennes ne mangent pas de poisson et il n'y a jamais de râpe de frites. Si je n'ai pas de quoi étoffer mon assiette ou au minimum me faire de solides petits déjeuners et goûters, je risque de trouver le temps bien long.
Dans Surveiller et nourrir, vous déroulez également un peu l'histoire de la nourriture en prison, notamment pour parler des exceptions à la règle d'une nourriture qui est globalement pas de très bonne qualité en milieu carcéral, avec à la Bastille au XVIIIe siècle les détenus issus de l'aristocratie qui s'en sortaient plutôt bien. Vous prenez l'exemple du célèbre marquis de Sade.
Oui, mon personnage pas du tout encensable du point de vue privé, mais en même temps, s'il a fait de la prison, c'est rarement pour...
Il y restait très longtemps.
Oui, il a fait 27 ans de prison dans sa vie, pas d'affilée, mais il a passé 27 ans de sa vie en prison sur 74 ans, je crois, de vie totale. Donc il est allé dans plusieurs endroits, en plus à une époque très particulière, lui, il a vu le basculement révolutionnaire et il a fini sa vie en asile à Charenton. Par contre, ses lettres sont très, très, très drôles à lire.
Il avait des exigences très, très précises sur ce qu'il souhaitait manger.
Oui, alors en plus, lui, il avait été incarcéré sur ordre de sa famille. Donc, c'est sa famille qui payait. Donc, c'est pour ça qu'il était exigeant, notamment vers sa femme. Et contrairement aux prisons actuelles, lui pouvait faire rentrer un certain nombre de choses. Il y avait des commerces qui était même à proximité, voire même dedans. Enfin, après, la Bastille, c'est vraiment une exception. C'était une prison de riches. On pouvait même venir avec ses meubles, avec son personnel. Après, bon, ça reste une prison. C'est pas plus enviable que ne pas être en prison. Mais c'est vraiment une transposition de leur mode de vie à l'intérieur. C'est complètement irréel de lire ça maintenant, en sachant comment ça se passe actuellement dans les prisons en France, y compris dans les quartiers dits VIP, ça j'en parle un petit peu, où il n'y a pas de laissez-passer particulier niveau nourriture.
Il y a Patrick Balkany qui est cité à un moment donné.
Oui, alors je ne pensais pas écrire un livre en parlant de Patrick Balkany, pas de QAnon non plus d'ailleurs, mais c'était...
Ils font partie du sujet.
Oui, c'est vrai que c'était un exemple médiatisé, même BFM avait fait un reportage spécial quartier VIP, où en fait le seul luxe que ces personnes ont, qui n'est même pas un luxe, c'est être sûr d'être incarcéré individuellement, un par cellule, mais c'est censé être obligatoire depuis longtemps.
Il y a bien quelque chose qu'on peut faire pour toi? Il n'y a pas une chose dont tu aies envie?
J'ai jamais, jamais vu un film.
Je voulais terminer avec une question sur un sujet qui fait beaucoup fantasmer et qui explique pourquoi vous vous êtes aussi intéressé aux États-Unis, le sujet du dernier repas du condamné. L'imaginaire est romancé, le réel, lui, il est très encadré, on le découvre dans votre ouvrage. Donc là, on parle des États-Unis où une trentaine de pays appliquent toujours cette peine.
Oui, alors je tenais à prendre ce sujet-là parce que ça m'intéresse au point de vue personnel et c'est très représenté dans la pop culture. En France, de toute façon, c'est assez limité parce que le dernier repas, ça n'existe pas. Vu qu'on ne savait pas en avance la date de l'exécution, on ne pouvait pas programmer. C'était considéré comme étant trop cruel d'avoir une échéance. Les États-Unis, c'est l'inverse pour les mêmes raisons. Mais oui, selon les États, il y a un budget, il y a des États qui ne le font plus, genre le Texas a arrêté.
Assez récemment, 2011, je crois.
Oui, c'était 2011, l'exécution d'un type horrible, par ailleurs, qui est un membre du Ku Klux Klan, qui a lynché à mort un homme avec deux complices. Donc il a été condamné à mort, il n'a pas été gracié. Et il a fait comme beaucoup de personnes condamnées à mort qui acceptent le dernier repas, il a demandé plein à manger. Plein, 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 plein de la glace, des trucs frits. Il y a une étude dont je parle qui a été menée. Alors, le chiffre de tête, c'est quelque chose comme 2800 calories, la portion moyenne pour un seul dernier repas. C'est délirant.
Plus que ce qu'il faut dans une journée.
Ah oui, mais les gens sont en stress total. Enfin, c'est vraiment un rapport hyper, hyper phagique à la chose. Et en fait, il a refusé. Et ça a été rapporté comme un caprice. Parce que le gouverneur, en plus, à l'époque, en disant « on leur donne trop de droits, maintenant ça suffit ». Le droit d'être exécuté, ça aussi, ça se discute. Et je pense qu'en plus, vu que c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout bonne presse pour des raisons qu'il a entièrement méritées. Mais en fait, c'est qu'il a eu peur. Et il y en a plein, en fait, c'est ce qui se passe comme ça. Parce qu'on vous sert ça quelques heures avant de mourir. Et c'est vrai que c'est une discussion qui arrive hyper souvent. Qu'est-ce que je mangerais si je savais que je serais exécuté? Bah, en fait...
On peut pas se figurer.
Il y a de gens qui le font, mais en pratique, c'est moins bien ce que c'est. Et c'est vrai qu'il y a une critique. Moi, je suis... quand même plutôt d'accord avec celle-là, qui fait que c'est plutôt de la propagande plus que de l'amélioration des conditions de détention, parce que ça arrive à la fin. Généralement, après une détention longue, la moyenne du temps passé dans le couloir de la mort américain, c'est 18 ans. Parce que généralement, les gens font appel et épuisent un maximum d'appels. Donc ça, et il y a même des gens qui sont exécutés après 25, 30, des trentaines d'années même.
Et ce geste-là du dernier repas, c'est un peu un acte de générosité face à ce qui est jugé monstrueux et sur lequel on l'emporte. Mmh. C'est ça quand on parle de propagande.
Oui, c'est un peu, on tue nos détenus, mais ils peuvent manger de la glace avant de mourir, quoi. Moi, je ne suis pas convaincue, je ne sais même pas qui ça convainc vraiment. D'ailleurs, il y a des détenus qui refusent aussi. Tout simplement.
Pour en lire plus sur ce sujet qui est vaste, qui est riche, on n'a pas tout évoqué, je vous conseille d'aller lire cet ouvrage « Surveiller et nourrir » qui est paru au printemps aux éditions Nourri Turfu. On le retrouve notamment à la librairie La Nuit des Temps ici à Rennes au tarif de 15 euros. Livre que vous avez écrit, Lucie Inland, vous êtes journaliste indépendante rennaise et vous venez donc d'écrire ce premier ouvrage, une enquête sur ce que la prison a dans le ventre. Merci beaucoup.
Merci.
to be alone, we'll stand alone forever. Standing on the world alone, learning how to stand alone, and always to be alone, we'll be alone forever. We were born to be alone, everybody all alone, born alone to be alone, we'll stand alone forever. Standing on the world alone, learning how to stand alone, and always to be alone, we'll be alone forever. We were born to be alone, everybody all alone, born alone to be alone, we'll stand alone forever. Standing on the world alone, learning how to stand alone, and always to be alone, we'll be alone forever. Everybody all alone, born alone to be alone, will stand alone forever. Standing on the world alone, learning how to stand alone, and always to be alone, will be alone forever. We were born to be alone, everybody all alone, born alone to be alone, will stand alone forever. Standing on the world alone, learning how to stand alone, and always to be alone, will be alone forever.
Ecstatic Truth par Crystal Fighters, un titre extrait de l'album Star of Love qui est sorti en 2010. C'était le premier album pour ce groupe électro britannico-espagnol. Est-ce que ça se dit ? Bon, en tout cas, le groupe a depuis enregistré 3 autres albums. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, émission qui se poursuit et qui va se terminer avec, comme chaque jour, une recommandation. Et la recommandation du jour, c'est de prendre le métro jusqu'à l'arrêt Via Silva pour jeter un œil au jardin pirate aménagé par le collectif 650 hectares. Ça s'est passé dimanche dernier lors d'une action pour protester encore une fois contre le projet d'aménagement Via Silva, un gros projet d'éco-cité, en tout cas sur le papier, entre Rennes, Cesson-Sévigné et Torigné-Fouillard. 200 hectares et non plus 450, où vont être construits d'ici 2040 des bureaux, des logements, mais aussi des services. Ce que le collectif 650 hectares regrette en raison de la bétonisation sur des terres en partie agricoles. Un groupe de personnes a donc refusé, je cite, que la biodiversité ne soit qu'une décoration dans ce quartier et a piraté un parterre où des herbes et légumes ont été plantés, tomates, courges, consoudes, choux, armoises ou encore ciboulettes. Le collectif annonce déjà de nouvelles actions pour l'été, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous laisse avec un extrait du reportage en leur compagnie qui avait été diffusé dans cette émission d'info locale il y a à peu près un an, le 4 mai 2022. Et celui que vous allez entendre, il s'appelle Nathan.
Le mode constructif pourrait paraître classique, hein. Tout le monde construit en béton, donc ok, ça se fait comme ça. Mais en fait non, et la plupart des Cessonais, des Rennais qu'on a rencontrés, après nous avoir rencontrés, se sont rendus compte en fait en quoi le béton était préjudiciable pour une génération en termes de bilan carbone, de destruction des ressources et de destruction des milieux.
Avant il y avait quoi ici ? C'était des terres qui étaient utilisées de quelle manière ?
Ben en fait, tout Rennes est sur un plateau argileux qui est extrêmement riche. Et les villes, en s'agrandissant, mangent en fait ces plateaux agricoles qui seront nous, c'est vraiment notre parti pris, qui seront dans quelques années essentiels à la survie d'une, d'une métropole.
Il y avait des fermes, des exploitations ici avant, ça fait longtemps qu'on n'a plus
Non, non, en fait, il y a encore des fermes, hein, et les terres là qu'on... Là, c'est un exemple idéal, la ferme était ici, quoi. Les terres étaient cultivées aux portes des fermes, et nourrissaient qui ? Les Rennais et les Sassonais directement.
C'est terminé, une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.